Charles a dit.
Charles a dit en direct du lycée Lebrun à Coutances.
Si Charles a dit, soyez tranquille, c'est vérifié. Le 2 et 3 février, de 10 à 16 heures.
Sur 87.7 et sur zonedonde.org.
Comme on vous aime beaucoup, on vous réserve une spéciale pendant la pause repas pour une durée de 20 minutes. Il s'agit de la chronique sur les tueurs en série des terminales HLP.
Des tueurs en série, des personnes qui fascinent et qui dégoûtent.
Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des tueurs en série, des personnes à la fois fascinantes et dégoûtantes. Mais Alice, qu'est-ce qu'un tueur en série ?
Un tueur en série est un criminel auteur d'homicides réitérés. Celui-ci a commis au moins 3 meurtres, séparés par un intervalle de quelques jours à plusieurs années, lieu et temps différents.
Est-ce qu'il y a un profil type de tueur en série ?
Oui. Le tueur en série est généralement représenté comme un homme type indo-européen, âgé de 20 à 40 ans. Celui-ci est souvent intégré sur le plan social et familial, mais présente de lourds antécédents psychiatriques, personnels et surtout familiaux. Et quels sont les différents types de tueurs en série ?
Les tueurs en série peuvent être classés selon plusieurs critères, comme leur motivation ou leur mode opératoire. Voici les principales catégories identifiées par les experts. Les individus peuvent être caractérisés de tueurs en série selon leur mode opératoire. Premièrement, le tueur organisé. Il est méticuleux, intelligent, planifie ses crimes avec soin et il est capable de mener une vie sociale normale. Ensuite, le tueur désorganisé. Il agit de manière impulsive, il peut souffrir de troubles mentaux et il a des difficultés à maintenir des relations sociales. Certains individus tuent aussi par motivation. Par exemple, le visionnaire. Il est souvent sous l'emprise de délires ou de voix, souvent liés à des troubles psychiatriques. L'hédoniste, lui, tue pour le plaisir ou la satisfaction personnelle. Par exemple, plaisir sexuel, confort matériel ou excitation. Le tueur en mission croit avoir une mission à accomplir, motivé par des croyances extrêmes. Puis, ceux à la recherche de pouvoir, de contrôle, tuent pour dominer ou contrôler ses victimes. Ils cherchent souvent à maîtriser la situation. Il y a d'autres classifications, avec les tueurs en série en masse, donc c'est ceux qui commettent au moins 2 homicides simultanés lors de plusieurs événements distincts. Et les tueurs en série organiques, donc ils tuent plusieurs personnes en un temps limité, jour ou heure. Quelle perception les tueurs en série ont-ils d'eux-mêmes ?
Les tueurs en série ont souvent une perception déformée d'eux-mêmes et de leurs actes. Voici quelques éléments d'autrui. Donc on a l'indifférence morale, ils savent distinguer le bien du mal, mais s'en moquent. Ils ne sont pas considérés comme cliniquement fous, mais plutôt indifférents aux lois et à la souffrance d'autrui. On a aussi une absence de remords. La plupart des tueurs en série ne ressentent pas de culpabilité pour leurs actes. Ils peuvent même justifier leurs crimes par des rationalisations complexes. On retrouve aussi le narcissisme. Certains tueurs en série ont un sentiment de supériorité et une grande estime d'eux-mêmes. Ils peuvent se voir comme des êtres exceptionnels ou des génies maléfiques. Enfin, on a les tueurs en série qui se dissocient. En effet, certains tueurs peuvent se dissocier de leurs actes, les perçoivent comme quelque chose d'extérieur à eux-mêmes. Cela permet de continuer à fonctionner dans la société sans être perturbés par leurs crimes.
À présent, nous allons pouvoir nous demander, est-ce qu'il existe des femmes tueuses en série ?
Alors oui, quand on parle des femmes serial killers, il faut d'abord rappeler qu'elles sont minoritaires, mais présentes dans l'histoire criminelle de nombreux pays. En France, l'un des premiers exemples connus est celui d'Hélène Jégadeau au 19e siècle. Elle travaillait comme cuisinière et a été liée à de nombreuses morts survenues dans les familles où elle était employée. À l'époque, la médecine légale était peu développée et personne n'imaginait qu'une femme chargée de nourrir les autres puisse être responsable de ces décès. Pendant des années, les victimes se sont accumulées sans que l'on fasse le lien. Ce cas montre comment les stéréotypes ont permis à certains crimes de rester invisibles. Toujours en France, il y a Jeanne Weber qui est un autre exemple marquant. Plusieurs enfants de son entourage sont morts successivement. Malgré les soupçons, elle a été jugée innocente à plusieurs reprises. La justice et la société avaient du mal à concevoir qu'une femme, et surtout une femme proche de ses enfants, puisse être coupable de crimes répétés. Ce n'est que bien plus tard que son histoire a été reconsidérée. Ici encore, ce sont des victimes très jeunes qui ont payé le prix du déni collectif. Est-ce qu'il y en a dans d'autres pays ?
Si l'on regarde du côté de l'Europe, on peut citer le cas de Nanny Doss aux États-Unis, souvent appelée de manière sensationnaliste par la presse. Elle a été responsable de la mort de plusieurs personnes de son entourage proche. Ce qui frappe dans ce type d'affaires, c'est que les crimes ont lieu dans la sphère privée, là où la confiance est totale. Les victimes ne se doutent de rien et l'entourage n'imagine pas le danger. En Allemagne, il y a eu le cas de Jesche Gottfried au 19e siècle, une femme qui a empoisonné de nombreuses personnes de son entourage. Elle était perçue comme une femme dévouée et attentionnée, ce qui a retardé les soupçons. Ses victimes étaient des proches, des amis, des membres de sa famille. Ce type de profil montre que la violence peut se cacher derrière une image sociale positive. Aux États-Unis encore, Eileen Wuornos est souvent citée parce qu'elle ne correspond pas au stéréotype habituel de la femme criminelle discrète. Son histoire est marquée par la marginalisation, la pauvreté et les violences subies dès l'enfance. Elle a tué plusieurs hommes. Son cas est souvent utilisé pour montrer la complexité des parcours criminels féminins, sans jamais excuser les actes, mais en rappelant que ces trajectoires sont souvent liées à de profondes failles sociales.
Il existe aussi des cas en Asie, comme au Japon, où certaines femmes ont été reconnues coupables de meurtres répétés dans des contextes familiaux ou financiers. Ces affaires sont parfois moins connues à l'international, mais elles montrent que le phénomène n'est pas limité à l'Occident. En Inde également, des femmes ont été impliquées dans des crimes en série, souvent liés à des conflits familiaux ou à des situations d'oppression sociale, ce qui complexifie encore l'analyse. Mais il est essentiel de rappeler que face à ces exemples de femmes serial killers, il existe une réalité bien plus massive et bien plus tragique, celle des femmes victimes des serial killers à travers le monde. Aux États-Unis, de nombreux tueurs en série ont ciblé principalement des femmes. Ted Bundy, par exemple, a fait un grand nombre de victimes féminines. Ces femmes avaient des vies, des projets, des familles. Pourtant, dans les récits médiatiques, elles sont souvent éclipsées par la figure du tueur, présentée comme intelligent, manipulateur ou charismatique. Les victimes, elles, deviennent des noms que l'on oublie. Un autre exemple est celui de Gare Rigway, dont la majorité des victimes étaient des femmes issues de milieux précaires. Certaines d'entre elles ont disparu sans que l'on s'en rende compte immédiatement, ce qui a retardé les enquêtes. Cela montre à quel point la valeur accordée à une vie peut dépendre du statut social.
À nouveau en Europe, des femmes ont également été les principales victimes de serial killers. Au Royaume-Uni, plusieurs affaires ont mis en lumière des femmes ciblées parce qu'elles étaient isolées ou vulnérables. En France, des tueurs en série ont aussi fait des victimes féminines pendant des années avant d'être arrêtés, parfois parce que les disparitions n'étaient pas prises au sérieux. En Amérique latine, la situation est encore plus alarmante. Dans certaines régions, de nombreuses femmes ont été victimes de crimes en série dans un climat d'indifférence ou d'impunité. Leurs disparitions n'ont pas toujours été correctement enquêtées et leurs familles ont dû se battre pour obtenir justice. Ces femmes étaient souvent jeunes, issues de milieux modestes et leur sort a longtemps été ignoré. En Asie, des affaires ont également révélé des serial killers ciblant des femmes migrantes ou isolées dont les disparitions passaient inaperçues. Ces exemples montrent que les victimes sont souvent choisies non pas au hasard, mais en fonction de leur vulnérabilité perçue.
Ce qui relie toutes ces histoires, c'est la manière dont les victimes sont traitées après leur mort ou leur disparition. Trop souvent, on se souvient du nom du tueur, de son visage, de son histoire personnelle, mais pas de celle qui l'a fait souffrir. Ces focalisations posent un problème moral et éducatif, surtout lorsqu'on aborde ces sujets dans des podcasts, des documentaires ou à l'école. Parler de ces exemples aujourd'hui, c'est refuser de transformer le crime en spectacle. C'est aussi rappeler que les femmes ne sont pas seulement des personnages secondaires dans ces récits, qu'elles soient criminelles ou victimes. Les femmes serial killers doivent être étudiées pour comprendre les angles morts de la justice et des stéréotypes de genre. Les femmes victimes doivent être mises au centre du récit pour leur redonner une identité, une histoire et une dignité.
En conclusion, cela nous montre que le phénomène des serial killers traverse les frontières, les cultures et les époques. Les femmes peuvent être criminelles, mais elles sont surtout très majoritairement des victimes. Derrière chaque nom cité, il y a des vies réelles, des familles et des silences qui auraient pu être évités. En multipliant les exemples, on comprend que ce sujet ne doit pas être traité avec fascination, mais avec responsabilité, mémoire et humanité.
Ensuite, parlons des tueurs en série dans les films et séries. Malgré la sortie en 1927 de The Lodger, A Story of London Fog d'Alfred Hitchcock, c'est en 1931 que naît le premier film mettant en scène un tueur en série qui retiendra vraiment l'attention du public, M le Maudit de Fritz Lang. Ce film, mettant en scène un tueur en série d'enfants, est donc le précurseur des films et séries de meurtriers en série. C'est fin du XXe siècle, début XXIe siècle, que les films de tueurs en série se multiplient. DVD, puis plus tard sur les plateformes de streaming telles que Netflix ou Prime Video, tous s'arrachent cette figure du serial killer. Selon l'article « Pourquoi sommes-nous fascinés par les tueurs en série ?» de la Boston University par Sophie Yarin, Déborah Jaramillo, une professeure agrégée en études cinématographiques et télévisuelles, nous explique que le cinéma entretient une image plus ou moins glorifiée du tueur en série. Elle dit « On observe que cette notion de criminel célèbre et de tueur en série deviennent en quelque sorte des célébrités. » Ce qui peut nous interroger sur les raisons pour lesquelles les tueurs en série envahissent nos écrans. On peut déjà associer ça ou à l'adrénaline, à la volonté de comprendre les motivations et la personnalité complexe du tueur. Donc en effet, il existe de multiples personnalités de tueurs représentées au cinéma. Le tueur moralisateur, comme dans le film Seven de David Fincher, sorti en 1995, où le tueur tue une personne pour un péché capital. Selon Wikifandom, et attention, âme sensible, s'abstenir. D'abord, la gourmandise, qui est représentée par un homme obèse retrouvé mort la tête dans une assiette de spaghettis, le meurtrier l'ayant forcé à manger jusqu'à ce que son estomac soit saturé. Puis l'avarice, qui est représentée par un riche avocat avide d'argent qui n'hésitait pas à défendre des meurtriers, des pédophiles ou des dealers pour amasser sa fortune. Il est retrouvé mort avec les poignées d'amour taillées. La paresse est représentée par un homme qui est resté allongé sur un lit pendant un an sans rien faire, ni manger, ni boire. Le tueur l'avait attaché afin qu'il ne puisse plus rien faire d'autre que dormir ou lui administrer des antibiotiques afin que la malnutrition ne le tue pas. La luxure est représentée par une prostituée attachée à un lit, obligée de se faire pénétrer par un jouet sexuel surmonté d'une lame de couteau. Cette dernière transmettait des maladies sexuellement transmissibles afin d'assouvir ses désirs. L'orgueil est représenté par une femme qui voulait à tout prix être la plus belle, se sentir la meilleure. Le tueur l'a lacérée, lui a couplé le nez et lui a collé un téléphone dans une main et une boîte de somnifères dans l'autre. Elle avait le choix entre appeler les secours ou se suicider. Elle a choisi se suicider. L'envie est représentée par le tueur lui-même. Il avait envie d'une vie comme celle de l'inspecteur Mills, le personnage principal, et il a donc essayé de s'approprier la femme de celui-ci. Celle-ci ayant refusé, il lui a coupé la tête. Enfin, la colère, c'est l'inspecteur Miles qui commet ce péché. Abattu par la mort de sa femme et de son enfant à naître, dont il apprend l'existence par la bouche du tueur, notre protagoniste, très en colère, tue le tueur, lui permettant d'achever son plan. Ici, on y voit une volonté moralisatrice qui peut, pour certains, remettre en cause les horreurs commises par les tueurs. On retrouve le même mécanisme, la série sortie en 2006 de James Manos Jr., Dexter, où le tueur slash protagoniste appelé Dexter tue les hors-la-loi. Meurtrier, dealer, responsable de violences conjugales, tout ça pour calmer ses pulsions meurtrières. On en revient au même point, la légitimité du meurtre si elle est pour le bien. Dans le même genre, on retrouve les tueurs en série qui le deviennent par désir de vengeance. Ils tuent pour se venger de leur traumatisme. On peut parler de Candyman, un film de Bernard Rose sorti en 1992, figure emblématique de cinéma d'horreur, apparaissant pour égorger ses victimes avec un crochet lorsque l'on prononce son nom 5 fois devant un miroir. Candyman était à l'origine Daniel Robitaille, un artiste afro-américain au 19e siècle, qui a été attaqué par une foule après être tombé amoureux d'une femme blanche, ce qui était à l'époque interdit. Suite à cette attaque, il succombe à ses blessures et erre à la recherche de vengeance. Plus largement, cette catégorie correspond également à Jason dans la série film Vendredi 13 qui désire se venger des harceleurs qui l'ont tué ou Jigsaw qui se venge de la société. On peut citer le tueur qui tue sans réel motif, même si en réalité on finit par s'apercevoir qu'il s'agit d'une pathologie psychologique partant souvent d'une enfance difficile. On peut notamment citer les saisons Dahmer et Ed Gein de la série Monstre sur Netflix, tirées des histoires vraies de ces deux derniers. Cette série documentaire exploite très largement l'aspect psychologique des tueurs, notamment la schizophrénie de Ed Gein et le trouble de la personnalité de Dahmer. Ce genre de tueur en série est utilisé pour effrayer, car sans motif précis, ils sont inarrêtables et donc personne n'est en sécurité, comme dans Halloween où Michael Myers est qualifié de mal pur, tant rien ne l'arrête. Puis l'incontournable tueur en série beau gosse et insaisissable, comment ne pas citer la série Netflix You, où le protagoniste est charmant, cultivé, romantique, mais aussi un psychopathe, stalker et obsédé, qui tue ses compagnes dès qu'elles font un pas de travers. Hannibal correspond assez bien à cette catégorie, un psychiatre très intelligent et raffiné, très élégant mais extrêmement difficile à démasquer.
Mais maintenant, comment parler des tueurs en série, sans parler des tueurs en série français? En effet, la France a vu passer un bon nombre de tueurs en série. Mais aujourd'hui, nous allons parler des plus connus, tels que Émile Louis, François Vérove, ainsi que Guy Georges. Tout d'abord, je vais donc commencer par vous parler d'Émile Louis, dit le boucher de Lyon. Né le 26 janvier 1934 à Auxerre et mort le 20 octobre 2013 en prison à Vendeuvre-les-Nancy, c'est un tueur en série tout d'abord condamné pour plusieurs chefs d'accusation, tels que atteinte sexuelle sur mineurs, torture et viol. Plus tard, il se retrouve vite au centre de l'affaire des disparus de Lyon. Après avoir avoué dans les années 2000 l'assassinat de 7 jeunes filles handicapées disparues dans Lyon, mais il se rétracte ensuite un mois plus tard. Il est alors, en novembre 2004, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour l'affaire des disparus de Lyon. Émile Louis est un ancien légionnaire, qui est devenu conducteur d'autocar. C'est d'ailleurs dans cette profession qu'il rencontrera ses victimes. Son épouse dit de lui qu'il a un double de la personnalité, qu'il peut très bien être gentil et attentionné, mais parfois cruel et méchant. Mais ce bon vieux Émile est loin d'être le seul monstre en France. En effet, dans la catégorie violeur et tueur en série, François Vérove fait la concurrence à Émile. François Vérove, ou appelé le Grêlé, est un homme actif dans les années 1980 et 1990. En région parisienne, en tant que gendarme pour ensuite avoir passé le concours de gardien de la paix et travaillé à la préfecture de police de Paris, le Grêlé a échappé pendant presque 35 ans aux autorités, alors que les enquêteurs avaient déjà son groupe sanguin, des portraits robots et des descriptions précises de sa physionomie dès la fin des années 80. À partir de 1996, son profil génétique est déterminé. Il se fait maintenant surnommer le Grêlé. Son profil criminel est considéré par les autorités comme atypique. Il ne s'en prend pas au même type de personne. Il sera tout d'abord considéré comme un tueur-violeur d'enfants, mais il s'en est pris à deux adultes également. Il s'en prend à ses victimes toujours de la même manière, en leur montrant sa carte de police afin de gagner leur confiance. Ce n'est qu'en 2021 que, sous ordonnance de la juge Nathalie Turquet, que la police judiciaire va interroger près de 750 policiers ayant travaillé dans la région parisienne à cette époque. Ce qui va leur permettre enfin de remonter à François Vérove. Il disparaîtra alors avant de se suicider le 29 septembre 2021 avant ses crimes dans une lettre. L'enquête reste tout de même active quelques temps après, cherchant à vérifier son implication dans d'autres affaires non élucidées. Pour terminer cette rubrique, je vais alors vous parler du tueur en série ayant engendré le plus grand nombre de changements dans le système judiciaire français. Cet homme, c'est Guy Georges. Ayant échappé à la justice pour des erreurs judiciaires ainsi qu'un manque de communication, Guy Georges, à l'origine appelé Guy Rampillon, a eu une enfance marquée par l'abandon. En effet, dès sa naissance, il est placé à la DEDAS et sera par la suite une pupille de l'État. Mais sera émotionnellement délaissé, son nom de famille sera changé de Rampillon à Georges. Et son acte de naissance sera remplacé par un faux, un acte considéré par les psychiatres de mort généalogique. L'un des psychiatres ayant examiné Guy Georges dira alors que parmi les sujets de mort généalogique, on rencontre souvent des enfants qui transgressent la loi de façon violente et agressive. En effet, cela se confirmera lorsque Guy agressera sa sœur en l'étranglant à main nue à 14 ans. Il n'aura aucune sanction, mais lors de ses 17 ans, elle finira en prison à la suite de multiples agressions. Il en ressortira 9 mois après, sans aucun suivi spécial. En 1983, il sera condamné à 30 mois de prison pour agression sexuelle et attentat à la pudeur. Étant sorti après 1 an et demi pour cette bonne conduite, il finira par être à nouveau inculpé pour 10 ans de prison en semi-liberté pour viol sous la menace d'une arme. Sa victime ayant réussi à s'échapper après avoir été poignardé. Mais étant en semi-liberté, un soir, il ne se présentera pas à la prison de Caen, s'échappant à Paris et vivant dans des squats. Il tuera alors pour la première fois en 1991, après avoir suivi une femme, avant de la violer et de la tuer. Il trouvera alors le moyen de ne plus avoir de plaignante pour le dénoncer s'il les tue. Il ira se constituer en tant que prisonnier à la prison de Paris et écopera de 8 mois de prison supplémentaire. Il sera libéré le 5 novembre 1993 et enchaînera 4 viols et meurtres en 1994. Tous sur des femmes ayant toujours le même mode opératoire. Malgré ça, les enquêteurs ne feront pas le lien entre les affaires, car chaque affaire sera donnée à des groupes d'enquêteurs différents. Le 16 juin 1995, une femme qu'il était sur le point d'agresser est parvenue à s'échapper. Elle donne alors à la police la description d'un maghrébin, qui est une mauvaise description de Guy Georges, car il est métisse. Le 8 juillet 1995, il récidive une nouvelle fois et commet de mêmes meurtres et viols précédemment commis. Et plusieurs traces d'ADN sont trouvées sur les scènes de crime, ainsi qu'une empreinte de pied dite égyptien qui ne correspond pas du tout à celle de Guy. Le 25 août, il sera au bord d'être démasqué après avoir manqué une agression sur une femme. Il sera placé en détention provisoire. L'enquête sur le tueur de l'Est parisien, étant le surnom qui était donné à cette affaire, se tourne vers le profil de Guy Georges, dont les antécédents concordent avec les 5 meurtres et la tentative de meurtre du tueur de l'Est parisien. Il acceptera de donner son ADN et dira lors de son procès, après qu'on lui ait demandé pourquoi il a accepté, qu'il voulait être arrêté. En septembre 1995, il sera sorti de prison pour être placé en garde à vue pour les crimes du tueur de l'Est parisien, mais échappera une nouvelle fois à la police. Car après avoir montré une photo de Guy Georges à une de ses anciennes victimes, elle ne le reconnaîtra pas et son ADN ne sera pas comparé avec celui trouvé sur les scènes de crime. Il sera tout de même poursuivi et condamné pour agression sexuelle commise à l'encontre de Mélanie Bacou à 30 mois de prison ferme. Il ressortira après 21 mois de prison en 1997 et s'en prendra à 4 femmes. Cette même année, n'en laissant qu'une seule en vie. Après son dernier meurtre, à la fin des années 1997, les enquêteurs, appartenant jusqu'à là à 4 groupes différents, arrivent à enfin définitivement faire le lien entre tous les meurtres et confirment l'existence d'un tueur en série dans la capitale. Guy Georges, se rendant compte de l'enquête sans précédent, quitte quelque temps Paris. En effet, on assiste ici à la première comparaison d'ADN à l'échelle nationale. Il y revient quelques mois plus tard, et c'est à ce moment-là que les scientifiques arrivent à remonter jusqu'à l'ADN de Guy Georges. Il sera alors interpellé et arrêté le 26 mars 1998. Cette affaire a engendré de nombreux changements au sein de la police, notamment avec la création du FAED, qui est le fichier automatisé des empreintes digitales.
Charles a dit.